Voilà, j'ai le plaisir de recevoir maintenant Annick Demouzon, novelliste, auteur tarn-et-garonnaise. Annick Demouzon, bonjour.
Bonjour.
Vous vivez à Moissac.
Oui.
Vous êtes née à Paris.
Oui, hein. Enfin, en région parisienne.
Vous avez exercé pendant près de 20 ans le métier d'orthophoniste à Moissac.
À Moissac, oui.
Et là, vous venez d'arrêter pour vous consacrer à l'écriture.
Voilà.
Parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose d'important pour vous depuis très longtemps.
Mm-hmm.
Et j'ai envie de dire, c'est un peu de famille. Comment ça se fait que vous soyez tombé, comme votre frère Alain Demouzon, dans l'écriture? Alain Demouzon est auteur de romans policiers. Il en a publié plus de 50, des centaines de contes et de nouvelles depuis longtemps. Lui, il a fait écrivain.
Voilà,
pendant
il en a fait son métier.
Qu'est-ce qui a amené, en fait, les Demouzon à l'écriture?
Chercher la femme. Donc, c'est notre mère qui était une grosse lectrice, qui nous a baigné de livres, qui nous a imprégné de lecture et d'invention, puisqu'elle nous inventait des histoires très belles, dont le fameux Narghidi, qui a accompagné toute notre enfance. C'était un héros récurrent. Elle nous racontait ça pendant qu'elle nous donnait le bain ou autre chose. Enfin,
qu'elle inventait comme ça au fur et à mesure.
Elle inventait. Donc, tout de suite, on a eu, enfin, je pense qu'Alain et moi, qui avons été particulièrement baignés là-dedans, nous avons toujours eu envie d'écrire. Ouais. Moi, j'ai écrit très jeune, en fait, très très jeune.
Par quoi vous avez commencé le carnet à spirale, comme ça, pour vous-même, le petit carnet intime, ou bien de suite des histoires et des nouvelles?
Ah, j'ai commencé, avant de savoir écrire, sur du papier toilette, des petits feuillets beige qu'on faisait à l'époque, que je reliais par un brin de laine rouge, et je faisais des dessins, de la fausse écriture, et à tous les gens qui passaient, je racontais mes histoires. Après ça, comme on s'est moqué de moi, ben j'ai changé de support. J'ai pris des pages de cahier, des pages de cahier d'écolier. Et j'ai continué comme ça.
Et vos premières écritures, vos premières histoires, elles racontaient quoi? La vie de tous les jours, la vie des gens? Parce que là, dans les deux ouvrages qu'on va présenter aujourd'hui, autour desquels on va discuter, il y a Virage dangereux, qui est un recueil de 19 nouvelles, paru aux éditions Le Bas Vénitien. Et puis, À l'ombre des grands bois, qui a eu le prix Prométhée de la nouvelle. Qui a un recueil de 14 nouvelles. Et c'est toujours au centre les gens, les familles, enfin les rapports aux gens, à la vie, quoi. C'est ça qui est au cœur de...
Eh bien, c'est ce qui fait notre humanité à tous. Donc, ce sont des vrais gens, comme ceux que je rencontre dans la rue, comme j'ai pu en connaître, ou simplement même les imaginer. Mais à partir d'une personne, on en fait plein d'autres, on en construit plein d'autres.
Déjà, alors, à l'époque petite, c'était ça?
Oh, petite fille, je pense que j'avais quand même mes personnages, mais je pense que j'attachais beaucoup plus d'importance à l'histoire. Mais quoique, je me souviens de certaines choses, où, notamment la description d'un cordonnier, qui était celui de ma rue, qui avait bien rempli ma nouvelle, puisque c'était des nouvelles que j'écrivais quand j'étais petite, forcément.
Observatrice avant tout, alors.
Je pense que c'est une de mes qualités, ça peut être aussi un de mes défauts, puisque ça peut agacer parfois, je vois des choses que je ne devrais pas voir. Mais oui, je pense que j'observe, je capte le monde, je suis assez perméable.
Ouais. Et ensuite, donc, vous le retranscrivez, vous écrivez beaucoup, vous êtes une boulimique de l'écriture, vous avez, je sais pas, un petit carnet sur vous, ou alors un...
J'ai toujours un petit carnet sur moi.
Un dictaphone, quelque chose.
Qui n'a rien d'original. J'en ai même un dans chaque sac, parce que si je change de sac, il faut qu'il y ait un carnet. Et à la maison, je recopie sur un autre carnet, parce que sinon j'en aurais trop dans tous les coins. Je suis relativement boulimique de l'écriture, oui. C'est-à-dire que j'aime écrire, c'est un besoin pour moi, je me plonge là-dedans et quand j'écris, il y a quelque chose qui m'emporte et là j'oublie tout ce qui peut être difficile dans la vie, même si je raconte des choses qui ne sont pas si simples et si faciles. Horrible, dit-on.
Horrible, oui, c'est super tendu des fois. Vous embarquez le lecteur dans des... certaines nouvelles ne sont pas à lire le soir avant de s'endormir. Parce que sinon, ça fait cogiter un petit peu. Je dis ça parce que... Alors, l'avantage des recueils de nouvelles, c'est qu'on peut les lire dans n'importe quel sens. Donc, on peut prendre la nouvelle de la fin, la nouvelle du début. Et alors, hier soir, avant de m'endormir, il a fallu que j'en lise une deuxième parce que la première que j'avais lue... c'était la première, en fait, de Virage dangereux. À la trappe, l'histoire de ce chat qui s'appelle Alfred Jarry, le pauvre, enfin, de sa maîtresse et de son maître, et du mari de sa maîtresse, à qui il arrive quand même des choses assez sordides.
Ça ne vous a pas empêché de dormir, quand même.
Ah,
quand même.
J'en ai lu une deuxième. Histoire de pas rester sur celle-là. Mais enfin, on aurait tendance, en fait, à en lire une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, parce que c'est toujours un peu ça, quand même. C'est-à-dire que vous embarquez le lecteur là où il sent, enfin, dans des, dans des recoins comme ça, sur des pistes, vous brouillez les pistes.
Ah oui, j'aime brouiller les pistes.
Vous laissez le lecteur imaginer lui-même ce qui va se passer et puis vous essayez justement de le surprendre.
Hein. Voilà. Dans la majorité des cas, j'essaie de le surprendre.
C'est ça. Alors, je veux pas tout dévoiler de cette petite nouvelle là, mais parce que justement, c'est ça qui est difficile en fait, c'est que il faudrait rien dire pour que ça fonctionne. C'est parce qu'en plus une nouvelle, c'est tellement court.
Oui, on ne peut pas raconter quand on raconte un roman comme font les auteurs de romans, peuvent raconter un gros morceau de roman.
Ouais, c'est pas grave.
Ça passe. Mais là, si on raconte, on raconte tout.
Ben ouais.
Mais c'est sûr que j'essaie de mener le lecteur sur des fausses pistes, qui se fasse une idée, qui s'attende à quelque chose, et puis finalement, voilà, et je perds un peu en cours de route.
Annick de Mouzon, l'idée de la nouvelle, c'est pourquoi ? Pour aller plus vite à la fin, pour raconter plus vite une histoire, ou est-ce que vous êtes déjà essayé justement au roman, à étoffer comme ça des histoires
Alors, je me suis déjà essayé au roman, c'est-à-dire que j'en ai fait un il y a quelques années, que j'ai proposé seulement à 3 éditeurs et n'ai pas continué de proposer, bien que Grasset m'ait écrit une lettre manuscrite m'encourageant à continuer. Je n'ai pas continué. Bon, la nouvelle, c'est aussi, j'ai toujours fait des nouvelles également. La nouvelle, c'est parce que ça me permet de raconter un nombre d'histoires incroyables que je ne pourrais pas raconter dans un roman. Il me faudrait pas une vie, mais combien de vies pour pouvoir raconter autant d'histoires que j'en raconte dans la nouvelle. Et là, j'aime aussi la concision, la brièveté de la nouvelle, qui oblige à dégraisser, à enlever tout ce qui est inutile et aller droit à l'essentiel. C'est un petit roman, mais en miniature, un concentré de roman. C'est une friandise de roman.
Ah, des friandises, bon, on va en
mais
parler
bon,
après.
Je n'ai rien contre le roman.
En plus,
je suis en train d'en travailler hein, actuellement.
En plus, vous êtes gourmande, Annick de Mouzon. On le voit en lisant la première nouvelle de À l'ombre des grands bois. On marque une petite pause musicale dans notre conversation et puis on reprend dans quelques instants.
Nothing will go wrong. Will you Upside Down. C'était Constance, notre invitée ce soir, l'auteur Annick Demouzon.
J'ai toujours aimé le chocolat et le caramel. Imaginez une plaque de marbre glacé. Le marbre est toujours froid, dit-on. Et le caramel, ah, l'odeur du sucre fondu qui se vautre, se couche, s'allonge et s'étire sur la plaque, languide, se fige. Une lave à reflets d'or. Vous sentez l'odeur puissante du chocolat chaud qui vous barbouille un peu, mais tout de même, vous met l'eau à la bouche, bientôt plus que cette odeur. Vous avez pris votre plus belle spatule, vous en avez vérifié la souplesse et la fermeté. Mais non, pas vous, un homme en blanc dont vous ne voyez que la bedaine de goûteur. Toi, tu goûtes trop mon pépère, pensez-vous. Il verse le chocolat lentement. Très noir le chocolat, un peu amer, sur le caramel déjà pris. D'un geste fluide, de la spatule, il étale, beauté indiscutable du geste. Vous admirez sur la surface en miroir se dessiner et s'inscrire le travail de l'outil. Vous êtes fasciné. Dessous, qu'aurait-il pu y avoir dessous ? Rien. Comme ça, c'est parfait. Bientôt vous croquez, non, vous déchiquetez, suçotez, mâchouillez, inhalez, aspirez, dégustez ces deux arômes sublimes qui se magnifient, caramel et chocolat, douceur et amertume, jamais l'un sans l'autre. Voilà, c'est le tout premier paragraphe de Caramel et chocolat, la première nouvelle d'Annick Demouzon du recueil du prix Prométhée de la nouvelle, À l'ombre des grands bois, où on sent bien... que là vous commencez à nous embarquer sur des pistes un petit peu bizarres. Il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi, hein, dans cette ouverture.
Douceur et amertume. Et là, je ne vous dirai pas la fin, évidemment, oui. Mais on est embarqué. Effectivement, les deux personnages partent sur une plage avec un sachet de caramel chocolat.
Est-ce que quand vous écrivez une nouvelle, Annick Demouzon, vous mettez en place, je ne sais pas, une sorte de plan ou est-ce que vous laissez plutôt filer l'inspiration au fur et à mesure?
Je laisse plutôt filer. C'est-à-dire que j'ai une idée, souvent même une idée seulement de départ. Il m'arrive parfois d'avoir l'idée d'une femme, mais ça n'est pas forcément le plus courant. Et je me laisse raconter l'histoire. C'est-à-dire que je laisse mes personnages et le lieu où je les ai mis, que j'ai en tête, que j'imagine, me raconter l'histoire. Et ça me surprend. Et tout du long, eh bien, moi, j'écoute cette histoire que me raconte mon stylo. Donc, je suis la première lectrice de cette histoire.
À l'ombre des grands bois, c'est donc un recueil de 14 nouvelles autour de la thématique de la photo. Pourquoi cette thématique-là ?
Parce que j'aime la photo, parce que j'aime faire de la photo et que je m'embarque en général avec un appareil photo dans la poche, surtout si je vais me promener. Donc ça s'est un petit peu imposé d'emblée. Et au départ, il y a eu cette envie de faire une première nouvelle qui utilisait la photo comme prétexte, et puis encore une autre. Et je me suis aperçue que j'avais déjà pas mal de photos comme ça, et je me suis dit, enfin de photos, c'est révélateur, de nouvelles, et j'ai eu envie de faire un recueil là-dessus, donc j'ai commencé à l'organiser avec cette idée-là, en me disant, bah tiens, là, tu devrais prendre un peu sous cet aspect, sous cet autre aspect. Donc je pars soit de clichés qui existent, à partir desquels je vais raconter ou reconstituer une histoire, soit simplement m'attarder sur l'instant de la prise de vue, à partir duquel on peut imaginer tant de choses. La photo va-t-elle se faire ou non ? Que cache cette photo ? Qui est ce personnage ? Que fait-il là ? Etc.
L'écriture, est-ce qu'elle change ? Parce qu'on parle souvent aussi d'écriture photographique, par exemple. Est-ce que vous avez profité du fait d'être dans cette thématique-là pour avoir justement cette écriture qui donne de l'image ?
Oui, sans doute, mais bon, déjà on le dit un petit peu de ma façon d'écrire, donc c'est de la triche. On dit parfois que j'ai une écriture impressionniste. Je m'inspire aussi du cinéma, parce que c'est quand même un art qui a imprégné notre époque. Donc, l'art de l'ellipse est très utilisé au cinéma. Et j'aime l'ellipse aussi dans l'écrit. C'est ce qui est bien dans les nouvelles, parce que je pense qu'on peut moins le pratiquer dans le roman qu'on peut le faire dans la nouvelle. En tout cas, moi, dans la nouvelle, je le fais. Je fais rarement des nouvelles qui vont du début jusqu'à la fin de manière uniforme. Je peux avoir des retours en arrière, flashback si vous préférez. Donc voilà, je mets l'éclairage sur un moment que je raconte ou que je décris, puis sur un autre moment, et les choses se construisent par petites pièces, comme un puzzle aussi.
Et le style d'écriture, vous le choisissez à quel moment ? Là aussi, c'est comme il vient ou il s'impose, ou bien vous vous dites,
je
tiens, aujourd'hui, je vais changer un peu.
Je ne réfléchis pas à l'avance, mais je m'imprègne, comme je vous dis, et à ce moment-là, ça s'impose un petit peu. quitte à revenir en retravaillant le texte. C'est-à-dire, il y a un premier jet dans lequel on se laisse emporter, qui est un vrai bonheur d'écriture sur l'instant, où on met tout, ses tripes, etc. Et puis ensuite, on reprend. Enfin, moi, je reprends, je ne suis pas la seule, je pense. Je reprends et je retravaille. Et à ce moment-là, je vais chercher la concordance dans ce genre de choses. Je vais dire, tiens, finalement, ça, ce registre de langue serait à éliminer. Il faudrait mieux en trouver un autre. De même qu'on rajoute d'autres idées au fur et à mesure.
Combien de temps pour écrire une nouvelle, Annick de Mouzon ?
Alors, je dirais peut-être 2 heures pour le premier jet. Et ensuite, eh bien, ça peut prendre des semaines ou des mois parce que je vais pouvoir la reprendre par petits bouts. Une nouvelle a besoin de dormir. Elle fait dodo dans son placard. On la reprend et on se dit, ah, mais pourquoi n'ai-je pas fait ça comme ça plus tôt ? Et à ce moment-là, on corrige et on améliore. Enfin, en principe, le but est d'améliorer.
Bah oui, quand même.
Voilà. Ça m'est arrivé une fois de repartir à la version antérieure, mais une seule fois. C'est-à-dire que j'avais trop amélioré, c'était devenu mauvais.
Comme un peintre qui déborde et qui en fait trop sur son tableau, qui ne sait pas s'arrêter. Alors, deux recueils, donc les deux sont sortis en 2011. Le premier, c'était donc Virage dangereux. Enfin, c'est... On va pas dire c'était, c'est pas, il y a pas un recueil qui efface l'autre. Hein. Les deux sont là.
Si proches, non.
Voilà. C'est Virage dangereux. C'était sur, bah voilà, ces petits moments dans la vie des gens où tout peut basculer sur une décision. En fait,
voilà.
Hein, c'est ça.
Sur un choix qu'ils ont à faire et qui ne va pas être forcément le bon et qui va les mener où le destin voudra bien. C'est-à-dire de virage à dérapage, il n'y a qu'un pas, et ça se termine souvent par un dérapage.
C'est marrant d'avoir choisi cette thématique-là pour votre premier recueil, et finalement, au moment où vous choisissez de mettre à l'arrêt votre carrière d'orthophoniste et de vous mettre à l'écriture. C'est un virage, ça aussi, pour vous.
C'est un virage, oui, mais bon, il a été sans danger, en réalité. Bah, l'idée des virages dangereux, ça s'est imposé aussi un petit peu progressivement, c'est-à-dire que la dernière nouvelle du recueil est celle qui m'a donné l'idée du recueil. Ce n'est pas celle que j'ai écrite en premier, mais c'est celle qui m'a donné l'idée. Je lui dis, tiens, ça, ces virages dangereux au singulier, cette nouvelle, c'est une idée, un recueil qui tournerait autour des virages dangereux. Alors évidemment, je suis allée fouiller dans les nouvelles que j'avais déjà écrites et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, beaucoup qui parlaient de virages dangereux. Donc j'en ai gardé, j'en ai sélectionné, j'en ai éliminé et j'en ai réécrite d'autres. Voilà.
Et donc, de temps en temps, vous faites quelques signatures. Ce sera le cas samedi 28 janvier à 10h à la librairie de Loche à Montauban. La rencontre avec les lecteurs, là, ça se passe comment pour vous ?
En fait, c'est un moment très agréable. La première fois qu'on fait une signature, bon, on ne connaît la signature que du côté de celui qui se fait signer son livre. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais en fait, en tant qu'orthophoniste, ça m'a pas complètement surprise, mais les gens ont un énorme besoin de parler. Donc, parfois, on les écoute énormément. Et on leur parle aussi, bien sûr. Les échanges sont plus ou moins riches, plus ou moins importants. Il y en a sur un moment très court pour lesquels l'échange va être très, très intéressant et d'autres qui vont rester très longtemps et sans que ce soit forcément plus riche.
Vous-même, vous êtes une grosse lectrice et vous allez à la rencontre comme ça d'autres auteurs, demander des dédicaces, des choses comme ça.
Je suis une grosse lectrice, ça, c'est indéniable. Aller à la rencontre des auteurs, ça me faisait une peur bleue. Donc, j'allais dans les salons, je les regardais de loin.
Pourtant, avec votre frère, vous étiez habitué.
Je n'ose... Oui, mais mon frère ne me faisait pas peur, mais cela, et je n'osais pas m'approcher, je les regardais de loin. Et donc ça m'a appris quelque chose, c'est que le lecteur a envie de parler à l'auteur, mais que le lecteur n'ose pas en quoi il a tort, parce que l'auteur est quelqu'un de normal, tout à fait comme eux, simplement, qui a décidé d'écrire parce qu'il aime ça.
Virage dangereux, 19 nouvelles.
Je crois qu'il y en a que 17.
C'est vrai ? Ah bon ? Bon, d'accord. 17 ou 19 nouvelles. 19 pour le prix de 17. Édition le bas vénitien.
Oui.
Très, très bel ouvrage, je trouve. C'est, voilà, je vous le disais hors antenne. Le bas vénitien. Là, je trouve que le travail d'édition est magnifique. Non moins magnifique, c'est celui des éditions du Rocher pour le recueil À l'ombre des grands bois, qui a eu le prix Prométhée de la nouvelle, préface d'Abdelkader Djemaï. Vous signerez ces deux ouvrages samedi 28 janvier à 10h.
À partir de 10h
à la librairie de Loche. Merci d'être venu nous en parler, Annick de Mouzon.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.